Le titre qui m'a été proposé, des origines intellectuelles de la Révolution française, pourrait tout aussi bien céder la place à un autre voisin, les origines spirituelles de la Révolution française. On dit très souvent que l'homme est dans l'histoire, comme si l'histoire était le milieu dans lequel il se trouvait plongé, chronologiquement, même géographiquement et sociologiquement, un peu comme un poisson se trouve dans un bocal. Et je voudrais essayer de vous proposer le point de vue inverse, à savoir que ce n'est pas l'homme qui est dans l'histoire, mais c'est l'histoire qui est dans l'homme. Et ce que nous appelons histoire n'est au fond que la plus ou moins lente explicitation de cette histoire intérieure qui constitue l'humanité de l'homme, qui constitue la condition humaine. Et sur cette histoire qui est dans l'homme, la Bible nous éclaire d'une façon particulièrement profonde. On peut penser ce que l'on veut de la Bible, sauf qu'elle n'existe pas. Et il ne s'agit pas de partir autoritairement de la Bible pour exercer une espèce de tyrannie spirituelle sur l'auditoire. Il ne s'agit pas non plus de parvenir à la Bible par une série de déductions rationnelles. Mais il s'agit d'éprouver ceci. C'est que à chaque fois que nous nous trouvons au fond d'impasse, que nous nous trouvons écartelés, déchirés, au point central de carrefour, qui nous présente des dilemmes, je ne dis pas des alternatives. Alors, à chaque fois, la Bible vient nous éclairer d'une lumière unique et irremplaçable. Elle nous éclaire ab immo, du fond de l'abîme. C'est là que nous trouvons la lumière qui nous permet de comprendre. Et la Révolution française, comme toutes les autres révolutions d'ailleurs, me semble être un effort de l'homme pour devenir l'auteur de sa propre transfiguration, de sa propre rédemption, de son propre salut. Et comme il n'y parvient pas, il prend les autres pour bouc émissaire, d'où ce déploiement de l'exaspération, d'une violence sans cesse accrue, qui sont les conséquences, les contreparties de cet échec que l'homme n'ose avouer de ne pouvoir être son propre sauveur. Je ne voudrais pas chercher à demander au siècle précédent les origines de la Révolution française. Les encyclopédistes, nous en parlerons, certes, car ce travail a déjà été fait par beaucoup, et bien fait par des spécialistes beaucoup plus compétents que moi. Mais je voudrais, ou d'abord, attirer l'attention sur ceci, c'est que l'histoire et les philosophies de l'histoire sont souvent victimes de deux illusions. La première, c'est l'illusion de rétrospectivité, qui consiste à nous dire, vous voyez, déjà, lorsque Louis XV monte sur le trône, vous sentez la prise de la Bastille, qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs, n'est pas loin. On prévoit dans le passé, et c'est très facile. Et l'autre illusion est plus récente. C'est celle que les micro-histoires, chers aux structuralistes, nous jettent en pâture. Elle consiste à nous dire, voilà, il faut étudier des micro-histoires, là, le synchronisme des événements, et il faut se méfier des macro-histoires qui essaient de nous expliquer le surgissement de ces événements. Car les structuralistes ont peur de se trouver face à face avec un sens transcendant qui serait porteur d'explications. Il faut, je pense, mettre entre parenthèses tout le cours de l'histoire pour finalement faire surgir l'essence même de cette histoire qui se trouve dans l'homme. Il y a bien certes une histoire, bien entendu, mais elle n'est peut-être que l'onde porteuse de l'événement. Et ce n'est pas tellement l'événement qui fait l'histoire que l'histoire qui fait surgir l'événement. Au fond, l'événement et les révolutions, ce sont comme autant d'îles qui surgissent d'un continent enfoui. Et ces îles, ces événements, ces révolutions représentent des points de focalisation du drame éternel de la condition humaine. Et en ce sens, la Bible est très éclairante, parce qu'elle nous met en présence de ce qu'on pourrait appeler le transhistorique, ce qui dépasse l'histoire, ce qui n'appartient pas à l'histoire, mais qui la commande, non pas certes à la façon d'un destin fatal qui prédéterminerait le cours des choses et la conduite des hommes comme une espèce de fatum, non, pas du tout, mais comme étant les racines dans lesquelles plonge la succession des faits auxquels nous appartenons. En ce sens, la Révolution française appartient beaucoup plus qu'à l'histoire de France. Elle appartient à l'histoire des révolutions, elle appartient à l'histoire de l'homme, qui est scellé dès le commencement, dès le « au commencement était ». Et trop souvent, nous confondons deux choses. Le commencement et le début. Nous sommes capables de prendre l'initiative de début, et très souvent, c'est hautement souhaitable, et cela fait partie de notre responsabilité. Prendre des débuts, des initiatives, dans tous les domaines, la législation, de l'économie, de la politique, que sais-je. Mais nous sommes absolument incapables de faire démarrer le commencement du « au commencement était ». Et la Bible nous parle précisément du commencement de tous nos débuts. C'est ce qui nous permettra de comprendre que, finalement, l'histoire, très souvent, sous des scénarios différents, nous fait apparaître une permanence profondément ancrée au cœur de l'homme. Essayons, si vous voulez bien, de réfléchir sur les grandes lignes de force qui ont convergé vers ce surgissement de cette révolution, qui est le point d'aboutissement d'une lente maturation. Oui, la mèche était allumée depuis longtemps, depuis toujours, dirais-je, depuis le « vous serez comme des dieux ». Mais il en va de cet événement comme de beaucoup d'autres. Nous avons quelqu'un dans la poche, un revolver chargé. Il y a à tout moment, le coup peut partir, et puis il faut quand même attendre le déclic. Mais le coup est là, en puissance. Et qu'est-ce qui déclenche le déclic? Souvent une chose insignifiante, mais la balle était là, prête à surgir. Première grande ligne de force, la Révolution française est un des points d'aboutissement de cette lente épopée de l'humanité qui a voulu faire descendre la vérité du ciel sur la terre. Et cela, c'est une entreprise qu'il ne serait pas exagéré de faire remonter à Descartes et au cartésianisme. Le vrai va être conçu non plus comme ce dans quoi se trouve l'homme, qui n'est ni le possesseur de la vérité, ni dépossédé de la vérité, mais qui se trouve dans la vérité. Jésus ne cesse de dire « en vérité, je vous le dis ». Et lorsqu'il parle des apôtres, il dit qu'ils appartiennent à la vérité, ils sont de la vérité, ex et le génitif. Dont la vérité n'est pas en eux, c'est eux qui sont dans la vérité. Il y avait donc à la fois, dans cette façon de concevoir, de sentir les choses, il y avait cette idée que la vérité était à la fois présente en l'homme et distante de lui. Avec Descartes, les choses changent radicalement. Tout le monde le sait. Descartes nous dit « Je décidais de ne tenir aucune chose pour vrai que je ne la connusse évidemment être telle. » Le critérium de la vérité, c'est donc l'évidence intellectuelle et non pas l'évidence sensible, bien sûr. Le critérium de la vérité, c'est l'idée claire et distincte. Ainsi, la vérité, ce n'est pas ce à quoi l'homme peut partiellement accéder sous la condition d'une révélation. La vérité, c'est ce que découvre l'homme, et même allons plus loin, c'est ce dont l'homme est l'auteur. Parce que, bientôt, on va nous dire ceci, c'est que la vérité se définit purement et simplement par la cohérence interne d'une série de propositions. Et voici une formule latine que je traduis tout de suite, mais qui est très importante. Verum index sui et falsi. Si je la cite d'abord en latin, ce n'est pas pour faire le malin, mais c'est parce que c'est peu difficile à traduire de façon littérale, sans expliquer. La vérité est à elle-même sa propre marque, index sui, et falsi, et elle est aussi la marque du faux. Autrement dit, la vérité est à elle-même sa propre référence. Elle se justifie par elle-même. Rien, aucun lien ne la rattache à une source, à une racine. Alors à partir de ce moment-là, on pense la vérité en termes d'immanence. La vérité, c'est ce que l'homme comprend. La vérité, c'est ce que l'homme établit. Et Descartes va assez loin, très loin même, puisqu'il affirmera ceci, il suffit de bien juger pour bien faire. Cette formule a l'air d'être une formule d'une platitude, d'une banalité incroyable. Il suffit de bien juger pour bien faire. En verlan, on dirait « fais gaffe ». Mais il faut bien voir tout ce qui se trouve là derrière. Il suffit de bien juger pour bien faire. D'abord, on pense que l'homme est capable de bien juger. Ce qui met un terme à la formule médiévale « il est humain de se tromper ». Et puis, il suffit de bien juger. Donc, l'homme n'a absolument pas besoin de la grâce. Et le grand philosophe danois, Kierkegaard, critiquera Descartes en disant « Mais comment il suffit de bien juger pour bien faire ?» Il ignore la profondeur de ce que nous dit saint Paul, à savoir « Je sais ce qu'est le bien, je l'approuve, et pourtant je fais le mal. » Dans ce « et pourtant » qui n'est pas dans le texte, il y a là tout le drame de la tentation. Alors, la révolution va penser qu'elle est porteuse de vérité, créatrice de vérité, et que c'est elle-même qui l'instaure et qui l'institue. La vérité n'a de compte à rendre à personne, elle est l'œuvre exclusive et caractéristique de l'homme. Toutefois, Descartes était un chrétien, ce n'était pas un mystique, c'était un chrétien, et il nous dit que si l'homme est capable de comprendre les vérités, il y a des choses qui le dépassent. Dieu, il ne peut pas le comprendre parce qu'il n'est pas Dieu. il peut tout au plus le connaître, le toucher, et non pas l'embrasser. Et Descartes nous dit que c'est Dieu qui est l'auteur de la vérité est vérité éternelle. Il dit ceci qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Dieu, si 2 + 2 font 4, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu aurait pu faire que 2 + 2 fussent 5. Il aurait construit un monde différent, il nous aurait donné un entendement différent. Mais la vérité, ce n'est pas ce devant quoi Dieu s'incline, c'est ce que Dieu a voulu être vrai. Alors cette idée apparaît aux successeurs de Descartes comme un retentissement du mal. Et c'est entre autres ce qui scandalise Locke. Locke a écrit un essai sur l'entendement humain qui va être le livre, un des livres de chevet du XVIIIe siècle. Et dans cet essai sur l'entendement humain, Locke nous dit, mais voyons, ces vérités éternelles, qu'est-ce que c'est que cela? La vérité est acquise par l'expérience individuelle, psychologique, et l'expérience générique. Par conséquent, ce que nous appelons vérité, c'est le résultat de ces lentes acquisitions que chacun d'entre nous et l'espèce à laquelle nous appartenons ont acquis au cours de leur histoire. D'où l'action mise sur l'expérience, d'où le succès de l'empirisme. Et ce succès de l'empirisme et de l'expérience, on le trouve célébré dans le discours préliminaire de l'encyclopédie rédigé par D'Alembert. Il nous dit, mais la vérité, nous l'avons acquise grâce à nos sens. Grâce à nos sensations, qui nous ont donné des images, des idées, qui en s'associant entre elles ont donné naissance à des raisonnements, la vérité vient du contact de l'homme avec le monde extérieur. Et puis, vous savez, beaucoup de théologiens courent très vite parce que ils comprennent que c'est là le meilleur moyen d'être suivi par tout le monde. Alors, ils se sont mis à la remorque du cartésianisme, et parmi eux, il y a Malebranche. Malebranche, qui était un père de l'oratoire, a écrit un ouvrage célèbre, La recherche de la vérité. Et il avait lu Descartes, cela avait provoqué chez lui un enthousiasme extraordinaire. Malebranche était d'une constitution chétive, et lorsqu'il a lu l'homme de Descartes qu'il avait découvert chez un bouquiniste, il en a eu des palpitations cardiaques, il a fallu qu'il interrompe à plusieurs reprises sa lecture pour pouvoir la reprendre. Et on se dit, mais comment le traité de l'homme de Descartes, c'est un ouvrage d'anatomie, il n'y a pas de quoi avoir des palpitations cardiaques. C'est parce que Malebranche a pensé que là, dans le mécanisme cartésien, il allait trouver de quoi rénover la philosophie chrétienne. Et il va nous dire que Dieu est la cause, la seule cause, de tout ce qui se déroule dans le monde de la physique. Avec comme conséquence ceci, c'est que finalement, chez Malebranche, Dieu est beaucoup plus grand. Pas le déploiement des mécanismes qui donnent naissance aux lois de la physique que dans les Écritures. C'est ce qui permet de comprendre que le livre de Malebranche, père de l'oratoire, je le répète, fut avec Locke un des livres de chevet de tous les révolutionnaires, esprits forts, athées, libertins du XVIIIe. Cela peut paraître surprenant, mais c'est parce qu'il voyait là une sorte de justification de leurs idées sur la religion naturelle, sur le dieu horloger, sur le grand architecte. Conséquence de tout cela, eh bien ce siècle des Lumières auquel on faisait allusion tout à l'heure, les Lumières, ce pluriel est déjà tout un programme. La lumière n'est plus surnaturelle. La lumière est naturelle. Bilan, On pense que l'homme est le possesseur de la vérité, le détenteur de la vérité, et que il n'a qu'à la mettre au jour, et même de la mettre à jour. D'où ces cultes de la raison que l'on voit organisés par les révolutionnaires, la déesse raison, toutes ces charlottables dans lesquelles les grands révolutionnaires apparaissent avec des costumes souvent renouvelés de l'antique, pour célébrer un culte adressé à la raison, on dresse une statue, etc., etc. La raison, c'est, pense-t-on, ce qui va permettre à l'homme de constituer une cité juste, c'est ce qui va permettre, dans un univers de plus en plus cohérent, ce qui va permettre la naissance d'une humanité de plus en plus raisonnable. Et cette raison, cette vérité, n'ont de compte à demander à personne. C'est pourquoi on oppose, selon le langage de la fin du XVIIe siècle, les rationaux aux religionnaires. C'est l'homme qui est le possesseur, l'auteur, le fabricant de la raison. Le « vous serez comme des dieux » retentit un peu dans les coulisses. Seulement, nous le remarquions tout à l'heure, le mot « lumière » est employé au pluriel en France, au moins. Les lumières. Car, on va s'apercevoir, au nom de l'étude de l'expérience, de cette ouverture à cette humanité qui possède la vérité, que finalement, on se trouve devant, disons-le, une image renouvelée de Babel. Qu'il y a, finalement, un babélisme, si je peux fabriquer l'expression, du vrai. Et cela, Montaigne l'avait déjà remarqué, dans le chapitre des essais qui s'appelle « De la coutume et de changer aisément une loi reçue », Montaigne prend un malin plaisir à mettre sous nos yeux les coutumes les plus étranges pour nous montrer qu'ailleurs, elles sont considérées comme allant de soi, et il veut nous donner une leçon de relativisme en nous disant « chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage », en nous montrant que ce que nous prenons pour vrai, certain, évident, est tenu ailleurs pour faux, stupide et invraisemblable, et qu'inversement, ce que nous considérons comme absurde et sans fondement est tenu ailleurs pour évident et allant de soi. Voilà Babel. Et ce babélisme de la vérité se trouve un petit peu renforcé, repris par un auteur alors du XVIIIe siècle, Montesquieu, avec les lettres persanes. Et les lettres persanes sont un simple chapitre d'un genre qui avait un succès considérable. Il y a eu, mais elles ont eu beaucoup moins de succès chez d'autres auteurs, les lettres siamoises, etc., etc. Le procédé était toujours le même. On faisait venir en France un persan, un turc, un chinois, très bien vu le chinois, et on lui demandait de livrer ses réflexions. Et alors, il disait, mais c'est absolument incroyable, ces Français sont fous, ils sont complètement... Et puis, on adoptait le procédé inverse, on faisait promener dans des pays lointains un Français qui racontait qu'il avait vu des gens très bien, possédant une sagesse tout à fait remarquable, construite sur des bases totalement différentes des nôtres. Donc, sens et même goût du relatif. Cet homme qui était donné tout à l'heure pour le possesseur de la vérité, pour l'auteur de la vérité, voilà qu'il s'aperçoit que comme il y a des hommes, il y a des vérités, et il se perçoit, il se conçoit comme un être excentré voire comme un être excentrique. Alors, en face de ce babélisme de la vérité, et qui va donner naissance au conflit de tous les subjectivismes, on va célébrer une déesse nouvelle, et qui va être chargée de mettre de l'ordre là-dedans. Ah, non pas l'autorité des Écritures, non pas la vérité de la révélation qui corroderait tous les relativismes à la pierre de touche de l'absolu, non. La nouvelle déesse, c'est la volonté générale. Alors là, nous nous trouvons en présence d'une notion que tout le monde va angéliser, que tout le monde va canoniser, sanctifier, la volonté générale. Et Diderot, dans l'Encyclopédie, à l'article droit naturel, écrit ceci. La volonté générale est, dans chaque individu, un acte pur de l'entendement qui résonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui. Et voici la phrase au nom de laquelle vont être angélisés tous les massacres possibles, la volonté générale n'erre jamais. Diderot. Voilà par conséquent le nouveau critère d'infaillibilité. Il ne se trouve plus dans les Écritures, à Rome, dans les encycliques papales, que sais-je, c'est la volonté générale qui est infaillible. La volonté générale n'erre jamais, elle ne peut pas se tromper, par conséquent, l'homme doit s'y soumettre. Et Diderot en tire la conclusion, dans le même passage, en nous disant que celui qui ne veut pas se soumettre à la volonté générale, je le cite, doit être traité, et on frémit à la manière dont il pourrait être traité, doit être traité comme un être dénaturé. Eh bien, cette volonté générale est devenue la déesse nouvelle. On l'a appelée la volonté du peuple. Beaucoup plus tard, un Jaurès dira ceci, à penser contre son parti, c'est avoir tort. Par conséquent, l'universel tombe dans le général. La vérité devient ce qui est collectivement pensé. Et remarquez, aujourd'hui, nous en sommes toujours là. Il y a un mot qui a des résonances obscènes sur lesquelles je n'insisterai pas, mais qui est dans la bouche de tout le monde, le consensus. Il faut parvenir à un consensus. Le règne du collectif. Quand on ne sait que faire, on nomme une commission, un atelier. Ainsi, la volonté générale apparaît désormais comme le critérium de la vérité qui va mettre un point final à toutes ces querelles d'individualisme qui vont se heurter et se déchirer. Elle va mettre un terme au babélisme de la vérité, et c'est elle qui va permettre enfin de construire cette tour de la cité qui va escalader la verticalité et qui va monter jusqu'au ciel. Voilà par conséquent une seconde ligne de force capitale. La troisième, et qui en est au fond la conséquence logique, c'est la divinisation du social et la socialisation de Dieu. On cite toujours le mot fameux de Descartes, « Je pense donc je suis », mais il y a un autre passage que l'on cite moins souvent, dans lequel Descartes dit « Je pense donc je suis, donc Dieu est ». Et Descartes, dans les méditations, les principes et ailleurs, expose un certain nombre d'arguments pour prouver Dieu. Il part donc de sa réflexion intérieure pour parvenir jusqu'à Dieu. Il inverse une perspective qui était la perspective des penseurs du Moyen-Âge, et qui partait de la révélation, Dieu est, donc je suis, la création, donc je pense, donc je doute, parce que je suis un être faible et pécheur. Chez Descartes, c'est l'inverse. Je doute, donc je pense, donc je suis, donc Dieu est. On ne descend pas dans une perspective de chute au terme de laquelle se trouvent le mal et le péché. On ne descend pas de Dieu à l'homme, on monte de l'homme à Dieu. C'est donc dans une perspective ascensionnelle que l'homme non seulement parvient à Dieu, mais, ajoutons, fait Dieu. Il y a une chose qui a beaucoup de succès aujourd'hui, c'est la cloche, la cloche, la cloche. Et dans un des livres clés des gnostiques, l'œuvre d'Hermès Trismégiste, on ne sait pas très bien qui l'a écrite, il y a un passage où il y a ceci. Travaillons à fabriquer un Dieu. Alors, s'il s'agit de fabriquer la statue d'Apollon, la statue de Zeus, ça peut donner lieu à un chef-d'œuvre de la sculpture, pourquoi pas, si on va en faire un génie. Mais travaillons à fabriquer un Dieu. Eh bien, les révolutionnaires ont travaillé à fabriquer des dieux. Je citais tout à l'heure la parole « Vous serez comme des dieux ». On pourrait dire que la révolution est entrée dans le monde, ou les révolutions sont entrées dans le monde, à partir du moment, qui n'appartient pas à l'histoire, où le mot « Dieu » a été employé au pluriel, des dieux. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, le fin du fin, le chic du chic, si vous voulez réussir dans la vie, c'est de vous dire polythéiste. Le polythéisme a un succès considérable. Des dieux. Eh bien, l'homme, dans la révolution, a travaillé à fabriquer des dieux et à se constituer un panthéon nouveau. Tous ceux qui furent des révolutionnaires, parfois pour pas bien longtemps, étaient des gens qui étaient inconnus. Robespierre, Saint-Just, Marat, c'était des gens qui, avant de surgir brusquement sur la scène du théâtre de la cruauté révolutionnaire, étaient des gens qui croupissaient dans leur coin. Voici que brusquement, ces hommes sont capables, par une simple signature, de disposer de la vie d'un homme, de disposer de la vie de milliers d'hommes. Et ils sont considérés comme des dieux. Et puis, si ces dieux font l'objet de ce qu'eux-mêmes appelaient très joliment la régénération guillotinaire, c'est pour céder la place à d'autres. Car, va-t-on nous dire, tout comme il y a un devenir de la vérité, eh bien, de même, il faut renouveler ces dieux. Vous serez comme des dieux. Et avec cette idée que le social peut et doit être divinisé, que Dieu doit être socialisé, que la volonté générale est infaillible. On aboutit à un nouveau crime. On parlait jadis, on nous a répété cela fort souvent à l'école, dans ce qu'on appelait l'Ancien Régime, du crime de lèse-majesté. Lèse-majesté. À tel point que Malebranche, un père de l'oratoire, allait jusqu'à écrire « C'est un plus grand crime de souffleter son prince que de tuer son valet. » C'était assez curieux sous la plume d'un chrétien. Bon. Le crime de lèse-majesté. Eh bien, à ce crime de lèse-majesté, on en substitue un autre, le crime de lèse-société. Si vous ne pensez pas comme la Révolution vous demande de penser, si vous ne pensez pas comme le parti vous demande de penser, vous ne pouvez être que dans l'erreur. Vous êtes un être aliéné. Et vous devez, je recite Diderot, être traité comme un être dénaturé. Car, va-t-on vous dire, il n'y a pas de place pour l'erreur. L'erreur, c'est ce qui ne peut pas être enseigné, ce qui ne peut pas être divulgué. La vérité ne saurait être tolérante. Et cette idée que la volonté générale n'erre jamais va aboutir à mettre en pleine lumière une idée qui se trouve déjà, si on lit peut-être un peu entre les lignes dans les textes bibliques, l'idée d'un salut collectif, ou plutôt d'un salut par le collectif, d'un salut par la cité. Et cette cité va s'attacher à définir des droits de l'homme. Je crois que Mirabeau, qui parfois était cité, avait vu quel était ce danger. Et il aurait voulu, mais on ne l'a pas suivi, que cette déclaration des droits fût suivie ou accompagnée d'une déclaration des devoirs. Pendant très longtemps, il ne faut pas l'oublier, les hommes eurent des devoirs sans avoir de droits. Et le drame, c'est que maintenant, ils vont penser qu'ils ont des droits sans avoir de devoirs. Ce salut par le collectif et par la cité conduit à un véritable renversement. On va abandonner, perdre de vue tout ce qu'il peut y avoir de profond s'enracinant dans un sacré à propos de la personne humaine. La personne humaine va céder la place aux citoyens. L'individu va être tenu pour une abstraction. C'est le quotient de 1 million sur 1 million, ça fait 1. Et le tout étant supérieur à la partie, eh bien, l'homme, l'individu, n'a qu'à s'intégrer dans le tout, c'est-à-dire dans la cité, dans ce que la société attend de lui. Un Kierkegaard qui ne partageait pas du tout ce point de vue dira que l'homme est le seul vivant dans lequel la personne, l'individu, est supérieur à l'espèce. Et d'ailleurs, la parabole du bon pasteur pourrait nous inviter à réfléchir sur cela. Le pasteur abandonne le troupeau pour aller chercher la brebis perdue. Aujourd'hui, les pasteurs qui font croire au troupeau, je veux dire les conducteurs, pas les pasteurs au sens théologique du terme, les pasteurs qui font croire au troupeau qu'ils ont besoin d'eux, en réalité, c'est eux qui ont besoin du troupeau, mais les pasteurs aujourd'hui abandonnent la brebis perdue, une brebis sans compte pas, pour rester derrière le troupeau en disant « Je suis leur chef, il faut par conséquent que je les suive, parole céleste. » Bref, on va penser que cette Jérusalem céleste, eh bien, l'homme a les moyens intellectuels, légaux, et ajoutons même scientifiques et techniques, de la faire descendre du ciel sur la terre. C'est pourquoi la ville va être investie d'une fonction, disons d'une mission salvatrice, trans-individualisante. C'est l'idée que le paradis, par le social, est maintenant à la portée de la main. Ce qu'on appelle sécurité sociale constitue, faut pas l'oublier, un progrès considérable, car il y a eu des époques où les travailleurs n'étaient protégés par absolument aucune loi sociale, sécurité, les accidents, la maladie, etc. Donc tout cela, ce sont des conquêtes indiscutables, nécessaires et bienfaisantes. Mais ce mot « sécurité sociale » va prendre un sens considérable. Non pas simplement la sécurité contre les accidents, contre les maladies, le chômage, peut-être, mais une sécurité quasi existentielle. On va s'abandonner aux bras de la cité et de leurs chefs, les révolutionnaires, qui, pense-t-on, savent ce qu'ils font et savent ce qu'il faut. Et on va affirmer alors que, tout comme un bâtiment a tous les droits sur les pierres, alors que les pierres n'ont aucun droit sur le bâtiment, de même la cité a tout droit sur les citoyens, alors que les citoyens n'ont aucun droit sur la cité. C'était un mot de Molotov, je crois, qui disait ceci: le droit est fait pour protéger la cité des individus et non pas pour protéger les individus de la cité. Si bien que, avec ce prestige considérable que revêt la Révolution, qui apparaît comme l'institution d'un renouveau, d'un commencement, je dirais début, mais d'un commencement radical, la ville apparaît comme, non c'est pas contre les autres, mais comme le refuge. Dans Nietzsche, il y a cette phrase extraordinaire: j'ai le mal du pays sans avoir du pays, sans avoir de pays. Et Nietzsche fait dire à son Zarathoustra: où est ma demeure? C'est le cri éternel de l'homme: où est ma demeure? Eh bien, les révolutionnaires ont la prétention de construire, par les lois, par l'économie, par l'urbanisme, de sites, de construire par conséquent cette demeure que l'homme attend. On pense donc que l'ici, délivrant de tous les là-bas, le port va être enfin construit par la révolution. Le révolutionnaire, les révolutionnaires, ce sont ceux qui vont construire cette cité qui va permettre à l'homme d'habiter enfin dans le bonheur cette terre sur laquelle il avait pu jusqu'alors sentir comme une espèce d'étranger. Vous voyez, il est tout à fait significatif, je crois, de voir que des dictateurs comme Staline et Hitler, les deux compères bien connus, avec une espèce de terreur, de panique existentielle à l'égard, bon, bien sûr, nous ne savons que trop des juifs, une haine, mais une espèce de terreur, de panique à l'égard des nomades, des tziganes. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour les fixer, et n'y étant pas parvenus, ils les ont très souvent exterminés. Eh bien, si nous lisons les Écritures, nous allons déjà trouver cette idée qui nous est exposée. Caïn, il ne faut pas l'oublier, c'est le fondateur de la première ville à laquelle il donna le nom de son fils, Enoch. Et voilà que Caïn, fugitif et errant sur la terre, a pensé que cette cité, cette première ville, allait lui donner la chaleur de la collectivité, mettre fin à son errance et à sa fuite. Mais, Caïn est aussi celui par lequel la mort est entrée dans le monde. Il a tué son frère Abel. quelle leçon dans cette idée que le fondateur de la première ville a été d'abord un fratricide. Tout se passe comme si l'avènement du concept de fraternité passait d'abord par le meurtre du frère. On aime, on rencontre le frère. On aime, on rencontre le frère ou l'ami, mais on ne rencontre pas la fraternité, sauf dans les dictionnaires. On ne rencontre pas l'amitié. Et Kafka, un des plus grands témoins de notre temps, dans le château, disait « Ici, personne n'est l'ami de personne. » N'est-ce pas ce drame terrible, cette contradiction inéluctable qui enchaîne les révolutionnaires à un cycle de meurtres sans fin pour construire la cité et donner enfin naissance au concept de fraternité, il faut d'abord exterminer les frères. Et l'on sait que certains se livraient à des statistiques assez significative, en disant « La France compte 26 millions d'habitants, pour que la révolution soit définitivement assurée, il faut en tuer 23, il n'en reste plus que 5. » Certains disaient que, Camus a bien étudié tout cela dans « L'homme révolté », certains disaient qu'il fallait diminuer la population française d'au moins la moitié pour enfin construire un univers de la fraternité. Tuons les frères pour que la fraternité puisse enfin jaillir. Le prochain est complètement estompé au profit du voisin, au profit du citadin. La communication se substitue à la communion. Et je ne crois pas dire une bêtise trop grosse, c'est peut-être la plus petite de celles que j'ai dites, en disant que la Révolution française, je ne dis pas est exclusivement, mais fut plutôt l'affaire des villes, et surtout de Paris, que celle des campagnes. La ville, pour permettre à la fraternité de naître, se transforme en bagne, en extermination du frère. Et finalement, il y a quelqu'un qui fut souvent évoqué et invoqué par les révolutionnaires et qui avait compris et senti cela, c'était Jean-Jacques Rousseau. Le contrat social est un ouvrage qui est rempli de contradictions comme toute l'œuvre de Rousseau. C'est un document psychologique passionnant. Voilà un solitaire qui écrit le contrat social, quelqu'un qui prétend, je n'ai pas sûr que ce soit vrai, avoir mis ses enfants à l'assistance publique, qui écrit un traité d'éducation, l'Émile, et puis quelqu'un qui, tantôt, fait preuve d'un optimisme naturaliste, l'homme est né libre, et d'un pessimisme sociologique, mais la société le déprave, et qui fait aussi preuve de la perspective inverse, le pessimisme naturaliste. Laissez faire la nature, elle va assurer quoi ? Mais le triomphe du plus fort, ce qui est une honte. D'où son optimisme sociologique, il faut qu'un ordre juste, un ordre social juste, corrige ce désordre naturel. Par conséquent, chez Rousseau, tantôt la nature est correctrice et rectrice de la société, tantôt c'est la société qui est correctrice et rectrice de la nature. Et cette contradiction, elle se trouve au cœur même des entreprises des révolutionnaires, qui très souvent invoque Rousseau, alors que Rousseau était tout à fait un ennemi du système de la députation. Et puis, quatrième ligne de force, nous allons trouver l'aboutissement de la formule que Goethe met dans Faust pour remplacer le haut commencement était le verbe par le haut commencement était l'action. Le premier geste, c'est celui d'Ève qui accepte et qui donne la pomme. Le deuxième geste, c'est celui de Caïn. Mais l'homme a mis toute sa confiance en l'action. D'où le rêve techniciste que l'on voit chez Descartes, qui nous incite à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et puis, cette encyclopédie, où pour la première fois, on se trouve en présence d'un ouvrage collectif, dans lequel les hommes veulent faire le bilan, non seulement de ce qu'ils savent, mais de ce qu'ils peuvent. Les volumes de planches où on représentait les outils et les machines balbutiantes de l'époque eurent un succès considérable. Agir au nom du savoir. Voilà ce qui constitue le prolongement logique des Lumières. Et les révolutionnaires se font toujours passer et se croient pour être les hommes. Ils peuvent parce qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ce sont les experts. Prométhée et Faust vont se donner la main dans cette révolution française pour bâtir, construire. Et pour cela, ils vont se trouver amenés à utiliser l'homme, non seulement comme un outil, mais comme un matériau. Au XVIIIe siècle, nous avions la Métrie qui, croyant être fidèle à Descartes, qui avait parlé des animaux-machines, avait écrit un ouvrage au titre ronflant, l'homme-machine. Eh bien, c'est un peu à cet homme-machine, machiné, mécanisé, utilisé, transformé, que la révolution et les révolutions vont donner naissance. Car, petit à petit, va naître cette idée que l'action est auto-justificatrice, que l'action vaut beaucoup mieux que la grâce. Et la révolution française, c'est au fond ceci. La dictature et le despotisme des sauveteurs, qui se prennent pour des sauveurs, ce qui n'est pas du tout la même chose, et qui se proposent de refaire l'homme, de réécrire la jeunesse. Si bien qu'ils vont travailler, ces révolutionnaires, à instaurer, institutionnaliser un début nouveau, et à écrire au commencement était la révolution. Et l'on voit une traduction de tout cela dans l'institution d'un nouveau calendrier, l'an 1 de la République. Il caresse le rêve de devenir capable de mettre la main sur le commencement de toute chose et de l'homme lui-même grâce à l'action instauratrice de début. Et pour cela, ils vont se souvenir d'œuvres du XVIIIe siècle qui se sont proposées de dévoiler le début. Œuvres dans lesquelles on a pris l'archaïque pour l'originaire. Buffon parlait d'une matière vivante. Dans un ouvrage trop peu connu de Benoît de Maillet, qui s'appelle Teyamet et qui est l'anagramme de Benoît de Maillet, en partie au moins, de 1755, nous avons affaire à un dialogue. Il y a un philosophe chinois de service qui dialogue avec quelqu'un et on se propose de dévoiler l'origine de toute chose. Je le cite, de percer les voiles dont la nature aime à se cacher. Et Benoît de Maillet pense que l'origine de toute chose, de toute vie, se trouve dans la mer. Et que les espèces, à nous l'évolutionnisme futur, que toutes les espèces sont issues les unes des autres. Que les oiseaux sont issus des poissons. Dévoiler le mystère de l'originaire, en dissiper les secrets. C'est la même chose que l'on trouve dans le rêve de D'Alembert, de Diderot, où il rêve, un ou deux, un grand sédiment primitif d'où tout serait issu, d'où tout serait né. À partir de là, commence de se fortifier cette idée que il y a une dynamique de l'évolution que l'homme doit prendre en main et diriger, une dynamique de l'histoire qui va être capable de créer et de modifier la chaîne des êtres. Le dieu horloger va faire place à l'homme architecte qui va se proposer de réécrire la genèse, de prendre l'homme en main. Et le révolutionnaire, qui est-ce? Sinon quelqu'un qui veut être l'ingénieur du temps, le pilote de l'histoire. Et une fois de plus, il me semble entendre, le « vous serez comme des dieux » et comme a dit l'autre, « les dieux ont soif ». Et puis, nous voyons apparaître le règne d'une explication par le milieu. On avait déjà trouvé cela chez Montesquieu dans l'Esprit des lois. Il nous dit, mais les lois ne sont pas du tout l'expression d'un absolu quelconque, elles sont le produit contingent du climat, de la géographie, du mode de vie, du relief, etc., etc. D'où cette idée que, par conséquent, on va pouvoir expliquer non pas la périphérie à partir du centre, mais le centre à partir de la périphérie. Et Diderot, dans l'encyclopédie, à l'article âme, insiste sur le rôle des aliments qui influent sur le corps, mais aussi sur les âmes. Les impressions faites sur les organes encore tendres des enfants peuvent avoir des suites si fâcheuses relativement aux fonctions de l'âme que les parents doivent veiller avec soin à ce qu'on ne leur donne aucune terreur panique de quelque nature que ce soit. Alors, c'est écrit avec beaucoup de discrétion, mais parmi les terreurs paniques, il y a les superstitions qui, selon Diderot, sont nées, c'est pas Diderot faux d'ailleurs, de la religion qu'il faut extirper comme source d'obscurantisme. D'où cette idée absolument capitale, qu'il n'y a pas de mal radical, mais qu'il n'y a que des maladies guérissables par des techniques appropriées. Alors les révolutionnaires pensent à la pédagogie de Rousseau. Ils vont penser que l'État doit prendre en main l'éducation des enfants pour former les citoyens que l'État attend, espère. Il y avait eu les physiocrates qui avaient beaucoup travaillé sur l'agriculture. Mais voici que cette idée qu'il n'y a pas de mal radical va faire apparaître, et seulement des maladies guérissables, va faire apparaître le révolutionnaire comme celui qui va devenir non seulement un sauveteur, mais un thérapeute qui va guérir la société de tous les maux. Il va être l'horloger social, le médecin du collectif, d'autant plus que le 18e a appris ceci, que l'homme était perfectible, que on pouvait parler, c'était un néologisme à l'époque, de bienfaisance. Alors, au nom du culte du progrès, on va voir apparaître un véritable terrorisme du vrai. Le 18e avait beaucoup parlé du despotisme éclairé. Les philosophes croyaient qu'ils se servaient des rois. En réalité, comme on l'a dit, c'était les rois qui se servaient des philosophes. Eh bien, on va assister à l'époque de la Révolution à une chose qui semble contradictoire en son expression, à un despotisme par les Lumières. Comme l'erreur ne saurait avoir droit de cité, il faut éliminer les irrécupérables et les suspects. On citait justement, par Lévi-Strauss interposé, on citait Sartre ce matin, en disant que c'était au fond une espèce d'héritier de cette révolution française. N'oubliez pas que Sartre, qui écrivait à peu près n'importe quoi, a dit dans la critique de la raison dialectique au tome 1, que le pluralisme était un concept fasciste. Quel pluralisme, enfin, y avait-il dans l'hitlérisme, dans le nazisme, dans le fascisme italien? Aucun, c'était le règne du parti unique. Mais non, pour ça, selon qui il n'y a qu'une seule vérité, le marxisme, le pluralisme est un concept fasciste, avec la conséquence qu'il en tire, le crime logique de Camus. Sartre n'hésite pas à écrire ceci, « Je suis un partisan convaincu de la peine de mort pour raison politique. Et il ajoute, un régime révolutionnaire doit se débarrasser de cet ennemi, et je ne vois pas d'autre moyen que la mort, car on peut toujours s'évader d'une prison. Voilà par où passent les chemins de la liberté. Et c'est pourquoi les révolutionnaires n'hésitaient pas à utiliser la formule dont je me suis servi tout à l'heure, la régénération guillotinaire. On dirait que l'on voit ressurgir le vieux mythe grec du Minotaure, le Minotaure habitant au centre du labyrinthe. Et chaque année, il faut aller le nourrir de jeunes gens et de jeunes filles que recrutent les villes et qui lui servent de nourriture. Eh bien, la ville, la révolution, avec ses voleurs, ressemble à ce Minotaure. On est perdu ainsi, et alors nous aboutirions à la phrase de Foucault, rien n'est contre nature parce que tout vient de la nature. Si bien que cette volonté générale finit par engendrer son contraire quand on va s'apercevoir qu'il n'y a pas une volonté générale, mais comme Montesquieu et Montaigne qui avaient vu des volontés générales. On va aboutir à ce que le père Echeverry appelait le conflit des humanismes. Et la terreur, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement à la fois le terrorisme du vrai et le babélisme de l'action. Caïn tue son frère pour affermir la cité. Eh bien, il est temps de conclure. Et réfléchissons sur l'étymologie du mot révolution. Le mot révolution n'a pas toujours eu le sens qu'il a aujourd'hui. Ce sens n'apparaît qu'aux environs de 1680. Une révolution désignait primitivement le mouvement circulaire des planètes autour d'un centre. Il est employé ainsi dans le fameux ouvrage de Copernic, la révolution des astres, la révolution des planètes, etc. Vers 1680, le mot révolution désigne un changement violent dans le gouvernement d'un État. Rien n'est plus instructif que ceci. Cette brisure du cercle, avec la perte du centre, cette substitution de la ligne droite. Et dans la ligne droite, il n'y a plus de centre. Alors on va en tirer la conclusion que le passé, c'est ce qui est dépassé. Du passé, faisons table rase. Et aussi qu'il y a un devenir du vrai. Et cette perte du centre va faire de l'homme non seulement un être excentré et excentrique, mais quelqu'un qui va vivre dans la distance. Et qui va penser que le changement est auto-justificatif. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Le philonéisme, c'est nouveau, donc c'est bien. À quel point que la révolution est devenue aujourd'hui le plus conformiste des lieux communs, et le titre révolutionnaire est un titre qui est réclamé par tout le monde. Eh bien, un petit frère de Jésus qui est mort prématurément, qui était un homme absolument remarquable, frère Heinz Schmitz, qui était d'origine allemande et qui parlait un français impeccable, a écrit ceci dans un opuscule dont je vous recommande la lecture, Progrès social et révolution, publié à Fribourg en 1983, dit ceci dans sa rage de ne pouvoir créer l'homme se fait anti-créateur. Eh bien, la Révolution française est un des épisodes de cette errance de l'homme qui, parti pour être Dieu, se retrouve démon. Car, et c'est peut-être la grande leçon que les Écritures peuvent nous donner à l'égard des prétentions des révolutions, tous les sauvetages du monde et par le monde ne feront jamais le salut. Et certes, il y a des changements absolument essentiels, fondamentaux. Mais le drame, c'est que l'homme est très souvent perverti par l'action qu'il ne peut pas ne pas opposer à l'action. On ne pouvait pas tolérer les camps de concentration, on ne pouvait pas tolérer Auschwitz, on ne pouvait pas tolérer
le racisme, l'antisémitisme. Mais tout cela, hélas, ne pouvait pas disparaître par de beaux discours. Il fallait donc prendre les armes. Et pour faire disparaître les assassins, il fallait devenir les assassins des assassins. Et c'était absolument indispensable. Et voilà le drame. C'est que l'homme se trouve lié fondamentalement au mal. Et s'il n'agit pas sous le prétexte d'avoir les mains propres, alors là, c'est l'angélisme béat de l'intellectuel natif. Et lorsqu'il agit, il ne peut pas ne pas être contaminé par ce contre quoi il agit. Mais le drame, c'est que le monde angélise la révolution. On va en savoir quelque chose l'année prochaine. Car le monde reste aveugle et sourd, car comme nous le disons dans la première épître de Jean 4-5, il n'écoute que ceux qui sont du monde et qui parlent d'après le monde.